RFI, il est 6h à Paris, 5h en temps universel, minuit à Washington.
RFI matin.
On commence RFI matin avec le journal. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Marion et bonjour à tous.
À la une, la toute première réunion du Conseil de la paix hier à Washington.
Une photo de famille à la clé pour les pays qui ont accepté de se rendre au rendez-vous de cette instance controversée. Seuls deux pays européens étaient représentés hier et il a surtout été question de la reconstruction de la bande de Gaza. Les détails dans un instant. À suivre aussi des centaines de prisonniers politiques supplémentaires qui devraient recouvrer prochainement la liberté au Venezuela. Une loi d'amnistie a été promulguée cette nuit. On verra qu'elle ne concerne pas néanmoins tous les prisonniers politiques. En France, 6 hommes soupçonnés d'avoir frappé à mort le militant d'extrême droite Quentin Derenque, mis en examen pour homicide volontaire. Un assistant parlementaire d'un député La France Insoumise et lui a mis en examen pour complicité d'homicide volontaire par instigation. Les détails dans ce journal. Et puis on parlera aussi de la Corée du Nord où s'est ouvert le congrès exceptionnel du Parti des Travailleurs. Il a lieu tous les 5 ans et il annonce en général les grandes lignes de la politique nord-coréenne, notamment en matière de diplomatie.
Une première réunion du Conseil de la paix de Donald Trump.
Oui, c'était donc hier à Washington. Peu de représentants de pays européens, à l'exception de la Bulgarie et de la Hongrie, ainsi qu'un commissaire européen. Les Européens qui restent donc en marge de cette initiative américaine qu'ils contestent. Le Conseil de la paix qui vise, on le rappelle, dans un premier temps à faire avancer le processus de paix à Gaza, mais dont Donald Trump souhaiterait voir les prérogatives élargies à la résolution d'autres conflits dans le monde. Un rôle normalement dévolu à l'ONU. Hier, une première enveloppe a été dévoilée pour ce Board of Peace, ce Conseil de la paix. Précision, Daniel Valot.
Plus de 7 milliards de dollars seront consacrés à la reconstruction de la bande de Gaza. La somme, réunie essentiellement par des pays du Golfe, sera mobilisée à condition que le désarmement du Hamas soit effectif. Selon Donald Trump, 2 milliards de dollars seront également versés par les Nations Unies. Cette première réunion du Conseil de la paix était consacrée en grande partie à Gaza et pour cause. À l'origine, ce conseil, voulu et conçu par Donald Trump, avait pour seul objectif de garantir la viabilité du cessez-le-feu conclu le 10 octobre dernier. Le général américain Jasper Jeffers a d'ailleurs confirmé que l'Indonésie serait l'un des fers de lance de la future force de stabilisation qui sera déployée dans le territoire. Le pays asiatique assumera le rôle de commandant adjoint de cette force et apportera 8000 hommes à un effectif qui devra en compter au total 20000. Le général Jeffers a par ailleurs annoncé que le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l'Albanie apporteraient également des troupes. Autre annonce, le début du recrutement pour la nouvelle force de police palestinienne. Selon le diplomate bulgare Nikolai Mladenov, en charge de la transition à Gaza, 2000 personnes se sont déjà portées volontaires pour assurer la police du territoire.
Les deux pays, l'Égypte et la Jordanie, se sont engagés à former des policiers. Au moment où se tenait cette première réunion du Conseil de la paix, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui insisté sur la nécessité d'un désarmement du Hamas avant toute reconstruction de Gaza.
Au Venezuela, la présidente par intérim du pays promulgue une loi d'amnistie historique.
Une loi d'amnistie votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et ce moins de 2 mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des États-Unis sur le sol vénézuélien. Une loi d'amnistie attendue, notamment par les États-Unis, comme un nouveau geste de bonne volonté de la part de Caracas. Cette loi élargit dans les faits le nombre de prisonniers politiques qui pourraient être libérés par Delcy Rodriguez. Écoutez la présidente par intérim, elle s'exprimait cette nuit.
Hay que saber pedir perdón.
Il faut savoir demander pardon, mais il faut aussi savoir recevoir le pardon. C'est le processus qui s'engage avec cette loi d'amnistie. Mais le texte va encore plus loin. Une commission spéciale a été nommée pour veiller à son application. Je leur demande d'agir avec la plus grande rapidité. Qu'ils prennent des mesures pour examiner les cas non couverts par la loi d'amnistie et formulent les recommandations pertinentes pour panser les blessures, réorienter la coexistence existence démocratique et réorienter la justice.
Delcy Rodriguez qui s'exprimait cette nuit, cette amnistie qui exclut néanmoins les personnes ayant promu, financé ou participé à des actions armées contre le Venezuela, ce qui pourrait dans les faits priver de la mesure de nombreux membres de l'opposition, dont sa chef et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qui ont soutenu l'intervention américaine du 3 janvier dernier. En plus bref, en Argentine, malgré la contestation manifestations dans la rue. Les députés ont adopté cette nuit la loi sur la réforme du travail voulue par le président ultralibéral et d'extrême droite Javier Milei. Le texte facilite les licenciements, réduit le barème d'indemnité ou encore rend possible l'extension de la journée de travail jusqu'à 12 heures. Il doit désormais retourner au Sénat pour approbation définitive.
RFI 6h05 à Paris, une passe d'armes en règle entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni.
Oui, passe d'armes au sujet de la mort de Quentin Derenc, ce jeune homme de 23 ans, militant d'extrême droite, battu à mort lors d'une rixe avec des militants appartenant à la mouvance de l'ultra-gauche. Giorgia Meloni avait évoqué un climat de haine idéologique et parlé de l'extrémisme de gauche. Emmanuel Macron lui a demandé hier d'arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres. La première ministre italienne a réfuté en retour toute interférence sur une affaire, je cite, qui concerne tout le monde. La mort de Quentin Derenc et la justice qui continue de faire son travail. 6 hommes soupçonnés de l'avoir frappé à mort ont été mis en examen hier soir pour homicide volontaire. Un assistant du député La France Insoumise, Raphaël Arnaud, pour complicité. Emmanuel Macron appelle La France Insoumise, mais aussi le Rassemblement National à faire le ménage dans leur rang. Écoutez la réaction du député insoumis Sébastien Deloglu, qui participait à un débat en tant que candidat au municipal à Marseille. Il a défendu la Jeune Garde, le groupuscule antifasciste accusé d'être lié à l'agression mortelle de Quentin Derenc.
Ce sont des militants politiques et ce ne sont pas des gens violents. Je ne les ai jamais vus violents. J'ai vu des personnes qui étaient là pour essayer de comprendre l'idéologie politique de l'extrême droite pour pouvoir mieux la combattre. Et c'est les seules personnes que nous avons trouvées à l'avant-garde pour combattre le fascisme dans ce pays. Et je suis fier de celles et ceux qui ont participé à tous ces événements. Mais je me désole de ce qu'il se passe et je n'appelle absolument pas à la violence. Et la France Insoumise n'est coupable de rien dans cette affaire.
Sébastien Deloglu hier sur BFM TV.
Toujours en France, la suite du procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty.
Et avec hier interrogatoire du dernier des quatre accusés, le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui. L'homme avait été condamné à 15 ans de prison ferme en première instance. La cour lui reproche d'avoir tourné et diffusé une seconde vidéo dans laquelle il accusait sans preuve Samuel Paty d'avoir, je cite, insulté le prophète. Le professeur d'histoire-géographie avait ensuite été décapité aux abords de son collège. Abdelhakim Sefrioui, qui a une nouvelle fois nié hier toute culpabilité dans cette affaire. Amélie Beaucourt.
Des réponses à rallonge qui fourmillent de détails sans rapport avec les faits. Abdelhakim Sefrioui agace la cour par ses circonvolutions et ses traits d'esprit qui frisent parfois l'insolence. Si le père de la collégienne qui a lancé la cabale numérique envers Samuel Paty regrette volontiers son comportement et ses paroles, lui finit par reconnaître timidement, après 10 heures d'interrogatoire, une part de responsabilité, mais aucune culpabilité. En tentant de défendre une démarche militante et son droit à la liberté d'expression, l'homme s'est aussi beaucoup contredit. Sa vidéo, pour lui, n'a rien d'une incitation à la haine. Pourtant, il reconnaît qu'elle a suscité des réactions violentes d'individus radicalisés et concède avec le recul qu'il ne la tournerait pas à nouveau, si c'était à refaire. Le coupable, pour lui, est tout trouvé. Il y a une place vide dans ce box, annonce-t-il, c'est celle de l'État, qu'il accuse de ne pas avoir protégé le professeur alors qu'il était menacé. Au moment des faits, Abdelhakim Sefrioui se présentait publiquement comme membre du Conseil des imams de France. La cour avait donc estimé en première instance qu'il avait utilisé son autorité pour se saisir de cette affaire et qu'en diffusant cette vidéo calomnieuse, il avait joué un rôle essentiel dans l'engrenage qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty.
Amélie Beaucourt, et le verdict est attendu le 28 février prochain.
Du Nord, Kim Jong-un a donné le coup d'envoi d'un congrès crucial du Parti des Travailleurs.
Mais Kim Jong-un qui a déclaré ces dernières heures que le pays avait surmonté les pires difficultés depuis le dernier congrès qui a lieu tous les 5 ans et lors duquel, selon les experts, devraient être définies plusieurs priorités dont les objectifs du régime en matière nucléaire mais aussi les objectifs diplomatiques. L'une des questions est notamment de savoir si Pyongyang fermera définitivement la porte à l'Occident. Correspondance régionale, c'est Elio Fioretti.
Un congrès longuement attendu qui fait d'abord le bilan des dernières années du régime. Ce dernier n'a cessé de développer son arsenal militaire et nouer une nouvelle alliance avec la Russie au prix d'une économie toujours extrêmement fragile. Mais au-delà de la question militaire, le parti doit également décider de la posture diplomatique du régime. La nouvelle alliance avec Moscou, signée en 2024, est une nouvelle force pour la Corée du Nord, mais cette dernière devrait acter dans les prochains jours sa fermeture ou non à l'Occident. La Corée du Nord avait en 2024 reconnu la Corée du Sud comme un état hostile, une première dans son histoire, mais Séoul a depuis multiplié les mains tendues vers son voisin pour apaiser les tensions. Du côté de Washington, Donald Trump a également affiché son intention de rencontrer à nouveau les leaders nord-coréens, une attitude plus ouverte des deux ennemis traditionnels du régime qui pourrait influencer la décision du parti à ne pas se couper entièrement de l'Occident, une décision qui sera formulée dans les prochains jours à Pyongyang. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Au Maroc, la justice a rendu sa décision. Les 18 supporters sénégalais et un de nationalité française poursuivis pour les violences de la finale de la CAN ont tous été condamnés hier à des peines de prison ferme allant de 3 mois à 1 an de prison, arrêtés au stade Moulay Abdella. Le soir de la victoire du Sénégal face au Maroc en Coupe d'Afrique des Nations, ils ont déjà passé un mois en détention provisoire. En Afrique du Sud, à présent, l'un des fils de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été arrêté hier, soupçonné d'être impliqué dans une tentative de meurtre. Bellarmine Chatunga Mugabe aurait tiré sur un employé de maison. Il a été conduit à l'hôpital dans un état critique, selon la police. Précision, Joséphine Klockner.
C'est dans une villa du quartier cossu de Hyde Park à Johannesburg que la fusillade a eu lieu. Des voisins confient aux médias sud-africains avoir entendu des coups de feu, puis vu le jardinier de la propriété des Mugabe tenter de s'enfuir, poursuivi par le dernier né de l'ancien président du Zimbabwe. La police, appelée sur les lieux, a arrêté deux hommes, parmi lesquels la presse a pu identifier Bellarmine Chatunga Mugabe, 28 ans, le quatrième enfant de Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans. La victime a quant à elle été emmenée à l'hôpital dans un état critique selon la police, qui cherchait encore jeudi soir l'arme impliquée. La famille Mugabe n'en est pas à son premier coup d'éclat et plusieurs de ses membres ont été impliqués dans des affaires d'agression et autres démêlés avec la justice, tant au Zimbabwe qu'en Afrique du Sud. Il y a quelques mois, Bellarmine Chatunga a comparu au Zimbabwe pour l'agression d'agents de sécurité d'une mine. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
Enfin, place à la musique, Jeanne.
Et oui, on continue de mettre à l'honneur les finalistes du prix Découverte RFI 2026. Ce matin, on écoute le chanteur et guitariste mauricien Manu Desroches, présenté par Lisa Giroldini.
Manu Desroches baigne dans la musique depuis l'enfance, djembé d'abord, puis guitare, basse et enfin chant. Aujourd'hui, il lui consacre toute sa vie. Son premier EP sorti l'année dernière, Chapter of Sound, fusionne jazz, blues et traditions africaines et mauriciennes. Donne-moi la main. Fidèle à son île, Manu Desroches chante en créole mauricien et puise dans le métissage culturel propre à l'océan Indien, le séga traditionnel, les sonorités venues d'Asie, les rythmes africains et malgaches, une identité riche et plurielle. Attaché aux instruments traditionnels comme le tambour ravan et le maravan, aussi appelé kayambe sur l'île voisine de La Réunion, Manu Desroches s'ouvre également à d'autres horizons. On repère dans ses morceaux de la flûte bansuri indienne, des accents afrobeat et des couleurs caribéennes. Une musique qui voyage et qui fait voyager sans jamais oublier ses racines.
Le mauricien Manu Desroches, finaliste du prix Découverte RFI 2026.
Et on l'écoutera plus en longueur dans notre choix musical. Merci Jeanne Bartoli. 6h14 à Paris. On est ensemble jusqu'à 9h pour un tour du monde de l'actualité. On reviendra dans nos journaux sur la première réunion du Conseil de la paix de Donald Trump. Il a été question de la reconstruction de Gaza, de l'organisation du maintien de la paix sur place. Au Royaume-Uni, Andrew, le prince déchu, a passé plusieurs heures en garde à vue hier, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels aux financiers et criminels sexuels Jeffrey Epstein. Une affaire d'État qui vient ébranler la monarchie. On en parle dans une heure avec notre invitée, l'historienne Catherine Marshall. Notre invitée Afrique est Ousseini Amiongindo, figure politique malienne en exil. Il déplore les dernières déclarations de l'Union africaine qui estime que la priorité dans les pays de l'AES, c'est aujourd'hui la lutte contre le terrorisme.
Réduire aujourd'hui le problème du Mali à la lutte contre le terrorisme, c'est se tromper. Au Mali, nous avons un problème de dialogue national. Nous avons un problème de rébellion séparatiste, des tensions intercommunautaires, des partis politiques qui sont dissous. Donc, le problème du Mali, il est global. Il ne peut pas être circonscrit à un problème de lutte contre le terrorisme.
Entretien à écouter dans une demi-heure. Notre dossier du jour consacré à une inquiétude sanitaire, le retour de la rougeole dans plusieurs pays du monde, notamment aux États-Unis, alors que la vaccination est remise en cause depuis le Covid. La pandémie qui avait popularisé le télétravail, mais aujourd'hui de nombreuses entreprises reviennent sur cette pratique. On verra pourquoi dans Aujourd'hui l'économie. On fera aussi un point sur l'actualité.
sauf les aveugles. Bien entendu.
Parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Doux, sage, sans effusion ni rage. Aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements. Elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres du paradis sur terre qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu payes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés, c'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. De moisir, c'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ce que tu veux les mettre au cachot. De moisir. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau. Ce que tu pectes pour garder le goût. De moisir à crédit dans un putain de trou.
Tes oreilles, tu écoutes et tu entends la musique.
Principe actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.